que ve shooting de Gerard.
Digo de Radio France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons sur les temps forts de l'actualité avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Ce soir, pour la rédaction chinoise, c'est avec Hermine Roumilac.
Niha.
Laetitia Constant de la rédaction brésilienne.
Bonjour.
Et Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol.
Buenas tardes.
Bonsoir à vous toutes. La France vit au rythme de l'élection présidentielle, 5 jours après le premier tour. Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen au second tour avec 59% des voix contre 41% pour son adversaire. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa qui vient tout juste d'être publié. Autre information du jour, la candidate du Front National appelle les électeurs de la France Insoumise à faire barrage à Emmanuel Macron. Quant au chef de ce mouvement, Jean-Luc Mélenchon, il réaffirme qu'il ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour. Alors, compte tenu du renouveau politique, sachant que c'est la première fois que la droite et les socialistes sont éliminés au deuxième tour, compte tenu de la personnalité des deux finalistes et des enjeux, bien sûr, eh bien cette élection présidentielle est largement suivie dans le monde. Lucille Gimbert, voyons avec vous tout d'abord ce qu'il en est en Amérique latine.
Alors en Amérique latine, pour la presse locale, l'enjeu de cette élection n'est pas seulement français, mais il est européen. Beaucoup ont donc souligné que deux des principaux candidats au premier tour, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen et le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, envisageaient de sortir de l'Union européenne. L'Europe pousse donc un soupir de soulagement après ce premier tour, estime par exemple le journal uruguayen El País en début de semaine. Après Mark Rutte, aux Pays-Bas, c'est Emmanuel Macron qui, en France, coupe la route à l'extrême droite anti-européenne, qui surfe actuellement sur la vague du Brexit et de Donald Trump. C'est ce qu'écrit un des éditorialistes de ce quotidien de Montevideo.
Je le disais, il y a eu dimanche dernier l'élimination des deux partis traditionnels de la vie politique française, la droite gaulliste et le Parti socialiste. Nombreux sont les titres de presse sud-américains qui le remarquent.
Oui, une situation inédite sous la Ve République pour, par exemple, le quotidien mexicain Milenio. L'absence dès la ligne de départ des deux présidents sortants, c'est-à-dire le conservateur Nicolas Sarkozy et le socialiste François Hollande, eh bien ça montre que les figures politiques de toujours sont usées. Pour le journal colombien El Espectador, c'est d'ailleurs l'une des nouveautés de ce scrutin, cette nécessité pour les candidats de se défaire, de se démarquer des partis politiques dont les Français désormais se méfient.
Hermine Roumilac, les Chinois s'intéressent-ils à cette élection présidentielle en France ?
Je dois dire que d'habitude non, mais cette fois-ci, même si ça n'atteint pas encore le niveau de couverture de l'élection américaine, on peut dire qu'il s'agit d'une élection étrangère largement suivie par les Chinois. Pour les raisons qui n'ont plus besoin d'être citées, les scandales, les surprises, tout ça. Les médias en Chine en ont tellement couvert ces élections que les noms des principaux candidats, Ma Ke-long pour Macron, Le Pen pour Le Pen, Fillon pour Fillon et Mélenchon pour Mélenchon sont devenus presque familiers pour les Chinois. Mais vu de loin, les situations inédites, un peu dramatiques pour les Français, comme la montée de FN, la déchue des partis droite et de gauche dites traditionnelles, touchent beaucoup moins les Chinois, qui observent d'un œil différent et presque amusant de cette élection. On parle beaucoup de la vie privée de Macron, son couple, son âge, son parcours professionnel parfait, entre guillemets, passionne les Chinois. Et tout cela suscite énormément de réactions sur le net. On parle de l'exception française, le vieux refrain que les Français sont romantiques refait surface. Du côté presse, le lendemain du premier tour, l'agence de presse officielle La Chine Nouvelle a vu une nouvelle génération se lever et des médias évoquent aussi d'un éventuel nouveau signe noir pour le deuxième tour et se demandent si Marine Le Pen incarnera-t-elle un signe noir après Donald Trump. Et Emmanuel Macron, dont son nom en chinois ressemble beaucoup à la traduction en chinois de macaron en chinois, il manque sur seulement un petit mot, petite peu de différence, se présente en tout cas comme le candidat préféré d'une majorité des Chinois et de l'élite chinoise.
Donc ce deuxième tour, c'est un affrontement Macron-Le Pen. Lucille Gimbert, que dit la presse d'Amérique latine, sur la personnalité de ces deux finalistes ?
Alors elle parle d'abord de deux programmes totalement aux antipodes, notamment concernant l'Union européenne, sur la question de la pluralité et sur la mondialisation. Le quotidien mexicain Excelsior les oppose aussi sur leur rapport à la Russie. Et puis il y a plusieurs journalistes qui font un parallèle avec l'élection aux États-Unis. États-Unis en ce qui concerne l'incertitude de l'électorat, mais aussi le développement d'un discours anti-système, anti-mondialisation économique, et puis cet envol de candidats qui se présentent comme des outsiders. Marine Le Pen est même décrite comme la Trump française par Publinews dans sa version digitale au Guatemala.
Alors Hermine nous disait que la presse chinoise s'intéresse à Emmanuel Macron, à l'homme qui est le favori des sondages. Qu'est-ce qu'il en est dans votre zone d'écoute ?
Alors tous ne sont pas d'accord. Alors certains, pour certains, c'est un... vont tous reconnaître sa jeunesse, le côté rénovation politique. Alors par exemple, le quotidien chilien La Tercera parle d'un novice électoral, mais qui a été habile en se positionnant au centre. Excelsior parle d'un leader jeune et crédible qui a su détrôner les partis traditionnels grâce à une plateforme créée il y a à peine un an. Mais d'autres sont plus critiques. Par exemple, El País, l'Uruguayen, écrit « El muchachito heroico », c'est le petit mec héroïque qui a vaincu l'extrémiste. C'est comme ça qu'il se moque un petit peu d'Emmanuel Macron. Pour cet éditorialiste colombien, eh bien, les médias français, notamment, ont en bloc intoxiqué les Français avec la chronique amoureuse de ce candidat qui a épousé sa professeure de 25 ans plus âgée. Il écrit même « Le beau mais incapable Macron » a vaincu Le Pen, mais celle-ci a tout de même obtenu 7 millions des voix malgré tout le pouvoir et les médias contre elle. C'est un peu son alerte aux Français dans les colonnes du journal El Tiempo.
Laetitia Constant, la communauté franco-brésilienne qui vit, travaille, vote en France, elle est importante. Est-ce qu'elle est inquiète d'assister à l'ascension de l'extrême droite dans son pays d'adoption ?
Effectivement, Philippe, une grande partie des franco-brésiliens de Paris sont inquiets et assument leur intention de voter pour Emmanuel Macron, même si au premier tour, certains d'entre eux ont voté pour d'autres candidats. C'est le cas de la directrice de marketing chez Landrade qui vit à Paris. On l'écoute.
Alors,
elle vote pour qui, elle ?
Alors, Sheila dit qu'elle va voter Macron parce qu'elle ne veut pas du tout que Marine Le Pen arrive à la présidence. Elle a voté pour le PS, le Parti Socialiste, au premier tour, pour Benoît Hamon. Mais maintenant, elle dit que le PS est détruit et elle veut faire sa partie pour empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir au second tour. Philippe, ces sentiments partagés et solidaires sont assez présents entre les Brésiliens qui votent. Ils sont bien conscients que c'est la politique d'ouverture de la France qui a permis qu'ils obtiennent la double nationalité, par exemple.
Est-ce qu'on trouve parmi les électeurs d'origine brésilienne des gens qui votent pour Marine Le Pen ?
Oui, on n'échappe pas au paradoxe de voir un Brésilien fidèle à Marine Le Pen depuis le premier tour. C'est le cas de Joël Letier, employé dans une industrie pharmaceutique à Lyon. Il reconnaît d'ailleurs que c'est contradictoire qu'il souhaite un contrôle plus strict de l'immigration, parce que lui-même est étranger. Mais il croit que la France est en train de plonger dans les chaos et les Français sont épuisés et les migrants n'ont plus rien à trouver ici. Et le 7 mai, il va renouveler son vote pour le Front National. Voici son argument électoral.
Eu vou votar na Marine Le Pen, porque já estou à direita, já estou à esquerda.
Que dit-il ?
Alors, je pense qu'en France, on a l'impression que tous les candidats se ressemblent. Il dit qu'il a déjà essayé la droite, la gauche, rien n'a changé. Au contraire, les choses n'en font que s'empirer. Pour lui, Marine, c'est la candidate hors système qui n'a jamais exercé de pouvoir. Toute la classe politique la diabolise tellement, il réfléchit, qu'on a envie de voter pour elle.
Sur les réseaux sociaux, Hermine Roumilac, qu'avez-vous relevé d'intéressant ?
Alors, les internautes chinois sont très divisés sur cette question. Il y a deux camps, en fait. Les nationalistes chinois, toujours très nombreux à s'exprimer sur le net, espèrent que la France fera le choix de Marine Le Pen pour faire face à l'islam qui est très dangereux, selon eux. Et d'autres internautes mettent en garde ces derniers et disent qu'après les musulmans, Marine Le Pen s'en prendra aussi aux Chinois en France. Ils disent aussi, au moins, Emmanuel Macron aime la Chine, puisque les internautes font référence à la visite de candidats du mouvement En Marche à la famille chinoise dont le père a été tué lors d'une intervention policière au mois de mars à Paris.
L'élection présidentielle en France à suivre donc sur toutes les antennes de Radio France Internationale.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Toujours à propos de cette actualité, aujourd'hui Jean-Marie Le Pen s'est dit choqué par la cérémonie nationale organisée pour rendre hommage aux policiers tués sur les Champs-Élysées. Son compagnon a prononcé un discours très personnel, ce qui fait dire à l'ancien président du FN qu'il s'agissait plutôt d'un hommage à l'homosexuel qu'aux policiers. Laetitia Constant, de la rédaction brésilienne. Ce qu'on a entendu dans la bouche du compagnon de Xavier Jugelet, quand il lui déclare son amour, est-ce que ce serait possible au Brésil?
Effectivement, c'est fait attirer mon attention et a suscité une réflexion au sujet de l'ouverture et de la situation de la communauté LGBT au sein de la police au Brésil. Et la réponse est claire, c'est non. Je constate qu'aujourd'hui, même s'il y a une évolution dans la société brésilienne et même dans la jurisprudence par rapport au mariage entre deux personnes du même sexe, l'homosexualité dans les cadres des forces de l'ordre est encore un sujet tabou et cible des préjugés, comme nous confirme Fabrício Ramos, coordinateur des projets à l'Institut brésilien de la diversité, qui a réalisé une étude sur ce sujet. Écoutons-le.
Assim, muito preconceito, assim, muita violência contra essa população.
Quelle est son analyse?
Voilà, il dit qu'il y a, oui, il y a beaucoup de préjugés et violence, et au scénario politique actuel, serait peu probable la réalisation d'un hommage au Brésil, pareil à celui vu en France au policier Xavier Jugelet, avec les discours de son mari retransmis en chaîne nationale. En même temps, cet hommage résonne comme un exemple fort, une invitation aux autorités brésiliennes pour mener des changements et des progrès par rapport à la reconnaissance de notre diversité, dit Fabrício, avec une pointe d'optimisme.
Comment les policiers et policières homosexuels s'organisent pour se faire respecter au Brésil dans un milieu dur, avec un climat de violence très important?
Ils essayent de s'unir. Dès l'année 2011, des membres de plusieurs corporations de toutes les régions du pays ont formé un réseau national pour se protéger et lutter contre l'homophobie dans son milieu. Des gardiens de la paix, des agents carcéraux, des agents de la circulation, des commissaires, des pompiers et d'autres ont créé les réseaux nationaux des opérateurs de la sécurité publique LGBT.
On rappelle que c'est lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel.
Voilà. LGBT. J'ai eu 3 témoignages des membres de ces réseaux, à commencer par le gardien gay Breno Queiroz, qui rappelle que la police est un milieu profondément macho et ça impacte dans son quotidien. Ses collègues, par exemple, pensent toujours que si l'ex-suspect est beau, il peut agir avec moins d'autorité ou lui faciliter la vie. Un autre problème aussi, c'est l'évolution des carrières. Le gardien de la paix Maicon Natigal a 33 ans et vit avec un agent de la circulation il y a 13 ans. Il ne se cache pas. Malgré sa performance irréprochable auprès de la communauté à Porto Alegre au sud du Brésil, il n'a jamais eu une promotion par mérite.
Et concernant les femmes, les policières lesbiennes?
C'est aussi pénible. Elles doivent affronter toutes les sortes de commentaires sexistes de mauvais goût et ont du mal à assumer leur choix publiquement. Celles qui assument doivent lutter sans répit pour être respectées. Je parlais par téléphone avec une commissaire qui n'a pas voulu être identifiée. Elle a peur d'être victime d'homophobie et même des violences de la part de ses collègues.
Et on rappelle que le Brésil est un des champions, si l'on peut dire, des crimes homophobes. Par ailleurs, c'était Laetitia Constant de la rédaction brésilienne de RFI.
RFI.
Il vient de prendre la mer, tout du moins de sortir de son bassin de carène pour flotter. C'est le nouveau porte-avions de la Chine. Ce bâtiment a été construit en un temps record, environ 2 ans seulement. Hermine Roumilhac, ce n'est pas le premier porte-avions chinois. Alors pourquoi attire-t-il autant l'attention aujourd'hui et du monde entier, hein?
Alors, on a entendu tout à l'heure la télévision officielle de la chinoise. Le présentateur a annoncé que le premier porte-avions construit entièrement en Chine va quitter le chantier pour la cérémonie de mise à l'eau. Ensuite, vous avez entendu l'hymne national chinois chanté par les soldats. Et ces images ont fait le tour du monde et ça émeut parce que pour au moins 2 raisons. D'abord, ce deuxième porte-avions chinois dont le nom n'a pas été dévoilé, il est long de 350 mètres et le premier porte-avions entièrement conçu et réalisé dans le pays, en Chine. Contrairement à son premier porte-avions, le nommé Liaoning, qui a été acheté à l'Ukraine en 1998 et a été retapé et repéré après et mis à service.
Alors, ce navire est à propulsion conventionnelle, hein, c'est pas un navire à propulsion nucléaire. Pour autant, il y a de la technologie moderne,
hein. Oui, oui. En fait, on imagine que la Chine a copié sur son porte-avions qui a été acheté en Ukraine, mais a fait des progrès, a fait des progrès technologiques. Mais avant tout, ce porte-avions, c'est une question d'image, parce que la construction d'un premier porte-avions indigène en Chine est sans nul doute un événement historique, puisque ça hisse la Chine au rang des quelques puissances militaires mondiales en mesure de le faire, à côté des États-Unis, de la Russie, des Royaumes-Unis, de France, d'Italie et de l'Espagne.
Autre raison, alors celle-là, elle est d'ordre géopolitique.
Hein. Oui, c'est dans le contexte des tensions en mer de Chine du Sud et actuellement aussi dans la péninsule du Corée. Et la Chine cherche depuis longtemps à moderniser ses armées pour faire face à toutes ces situations et surtout sa marine et n'hésite jamais à y mettre des moyens financiers. Et la mise à flot de ce porte-avions survient en plein regain de tensions internationales autour de la Corée du Nord que on en parle tous les jours d'ailleurs.
Avec ce porte-avions américain, le Carl Vinson, qui croise au large de la péninsule coréenne. Si Pékin veut en remontrer à Washington avec cette cérémonie, cette mise à l'eau, il n'en reste pas moins que l'armée chinoise, Hermine, est encore très loin de rattraper hein, celle des États-Unis.
Oui, pour l'instant, c'est ça la situation. Et la marine américaine possède une dizaine de porte-avions opérationnels, ainsi que quelques 600 bases militaires dans une cinquantaine de pays. Alors que Pékin ne compte pour l'heure que deux porte-avions, dont une qui n'est pas encore mise en service, et une seule base militaire à l'étranger à Djibouti. Et le nouveau porte-avions chinois sont pour l'instant surtout une question de statut pour la Chine et non de vraie menace pour les États-Unis. Et au terme de Georgia aussi, si ça vous intéresse,
oui.
Pékin a annoncé en début de l'année une hausse de 7% de son budget militaire à...
en euros, allez, ça fait 143 milliards d'euros.
Voilà,
vous évitez la conversion.
Et les États-Unis, c'est 575 milliards d'euros. Voilà, la différence est énorme.
Hermine Roumilag, la rédaction chinoise de RFI.
Philippe Le Caplain.
En Amérique latine, il y a eu cette semaine un casse spectaculaire au Paraguay. 12 millions de dollars volés à l'entreprise de transport de fonds Prosegur. C'était à Ciudad del Este, une ville à la frontière paraguayenne avec le Brésil, Lucille Gimbert.
Oui, la presse latino-américaine l'a qualifié de casse du siècle. Ça s'est passé au niveau de la triple frontière. C'est la zone où se rejoignent le Paraguay, le Brésil et l'Argentine, le long du fleuve Paraná. C'était lundi à l'aube. 50 hommes armés ont attaqué le siège de Prosegur, une entreprise qui transporte des fonds. Avec des explosifs puissants, des mitraillettes antiaériennes et des grenades, ils ont fait exploser la salle des coffres et ils ont tué un agent de sécurité. L'attaque a duré près de 3 heures et paralysé cette ville de 300 000 habitants. Ce sont des scènes rapportées par les médias locaux, des scènes qui semblent sorties d'un film d'action. Par exemple, dans leur fuite, les assaillants ont brûlé plusieurs véhicules et ils ont utilisé des bateaux pour traverser ce fleuve qui fait office de frontière avec le Brésil.
C'est donc qui a commis ce casse hors norme ? Digne d'un film, vous le disiez, de Bruce Willis.
Ouais, hein. C'est vrai que c'est... Bon, bref, la police brésilienne a récupéré 1,5 million de dollars, arrêté 14 suspects et tué 3 autres lors des affrontements à la frontière. Elle a aussi saisi des drones dotés de caméras. Ça vous donne un peu l'envergure du matériel dont disposaient les assaillants. Et ça aurait servi à faire des repérages et puis ensuite à guider lors de l'attaque. Nombre de ces hommes armés ont été identifiés. Ils appartiennent à un puissant groupe criminel brésilien qu'on appelle le Primer Comando Capital, PCC. C'est un groupe armé qui est né dans les années 90 dans les prisons de Sao Paulo pour réclamer de meilleures conditions de détention, mais qui s'est transformé très vite en gang et aujourd'hui il compte plusieurs milliers d'hommes.
Vous confirmez Laetitia Constant, la rédaction brésilienne ?
Absolument. Le PCC fait peur.
Il est présent dans presque tout le Brésil, mais sur ce cas-là, les responsabilités ne sont pas que brésiliennes, elles sont aussi paraguayennes. C'est ce que nous a dit l'ancien colonel Edgar Emilio Servine. Pour lui, il y avait forcément des complices.
Alors,
il nous dit que ce casse violent montre la faiblesse des institutions paraguayennes. Pour lui, les assaillants ont bénéficié au moins d'informations privilégiées ou de la complicité d'agents de police, si ce n'est des autorités. Sinon, comment aurait-il pu introduire dans le pays un tel arsenal ? Pour lui, d'ailleurs, à ce propos, le gouvernement du Paraguay a destitué tous les dirigeants de la police de la ville, donc de Ciudad del Este.
Et pour ce qui est des Brésiliens, du gouvernement brésilien, ils tentent de minimiser le poids de ce PCC, hein, c'est ça ?
Du groupe criminel, mais il s'étend, ce gang qui opère en particulier dans les prisons où, brésiliennes où prolifère le trafic de drogue et d'armes. Eh bien, il est désormais présent sur presque tout le Brésil et cette violence dépasse maintenant les frontières puisque une autre attaque armée a par exemple eu lieu fin mars juste derrière la frontière avec la Bolivie. Donc les autorités brésiliennes et des pays voisins ont annoncé qu'elles vont travailler de main dans la main avec pour développer une réponse plus coordonnée, mais la tâche est immense vu la longueur des frontières.
Voilà, une sorte d'international du crime concernant cette région. Merci à vous toutes pour cet éclairage sur ce qui a fait l'actualité dans le monde, vu par les rédactions en langue étrangère de RFI. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'info.